vers une écologie intégrale. Une émission proposée par Didier Prudon et Alexandre Ribeyron.
Chers auditeurs, cher Alexandre, bonjour.
Bonjour chers auditeurs, bonjour cher Didier.
Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet un peu difficile, la sixième extinction. Et nous verrons sur le plan pratique l'importance d'écrire sa charte de l'écologie intégrale. Alors, il y a quelques semaines, un rapport WWF est sorti annonçant qu'il y avait 60% des vertébrés en train de disparaître de la surface de la Terre. Alors, sixième extension, est-ce que c'est une formule ou bien est-ce que c'est la réalité ?
Eh bien, mon cher Didier, on va essayer de répondre à cette question. Donc, tout d'abord, une extinction, qu'est-ce que c'est ? De quoi parle-t-on ? L'extinction, c'est la disparition complète d'une espèce. Par exemple, le dodo, qui était cet animal, cet oiseau sur l'île Maurice, qui ressemblait à un gros dindon, a disparu. Aujourd'hui, il n'existe plus. Le phénomène d'extinction, est-ce que c'est un phénomène normal ? Oui. Comme il y a des espèces qui apparaissent, il y en a d'autres qui disparaissent. Simplement, une extinction normale, c'est un phénomène à bas bruit, à faible intensité. C'est-à-dire que c'est quelques espèces qui disparaissent au fil du temps et puis il y en a d'autres qui apparaissent. Par contre, on va distinguer ce qu'on appelle une extinction massive. C'est une extinction qui va concerner un grand nombre d'espèces à la fois, sur une période relativement courte. Voilà. Et quand on parle de sixième extinction, on se reporte plutôt à cette extinction, ce phénomène d'extinction massif.
Alors, sixième extinction, mais ça veut dire qu'il y en a eu d'autres avant, il y en a eu cinq.
Exactement. Il y a eu cinq grandes extinctions durant les temps géologiques. Alors, c'est vrai que la plus célèbre, si on allait dans la rue pour interroger les personnes, je pense que la majorité nous dirait...
Les dinosaures.
Les dinosaures, voilà. Donc c'est une grande crise, la crise Crétacé-Tertiaire, il y a 65 millions d'années, qui a conduit à la disparition de groupes entiers, dont le groupe des dinosaures. Et ces extinctions massives peuvent entraîner la disparition de groupes aussi bien animaux que végétaux, d'ailleurs, peuvent les éradiquer complètement ou à 80%, 90%, voilà, c'est variable selon les périodes. Mais il y a eu cinq grandes extinctions massives dans l'histoire de la Terre.
Et aujourd'hui alors, qu'est-ce qui se passe ?
Qu'est-ce qui se passe ? C'est là où justement on revient à la question qui était posée au début, est-ce que c'est une formule choc ou une réalité ? Je vais répondre, c'est les deux. Pourquoi ? Parce que en réalité, nos connaissances sont très différentes selon les groupes. On va distinguer les vertébrés des organismes non vertébrés. Donc les vertébrés, en gros, pour qu'on soit tous d'accord, c'est les poissons, c'est les amphibiens, c'est les oiseaux et c'est les mammifères. C'est un groupe qui est particulièrement bien connu depuis longtemps. C'est probablement le groupe pour lequel on a le moins d'incertitudes concernant le nombre d'espèces, on est autour de 40 000 espèces, et c'est celui qui est le plus documenté aussi concernant la disparition, extinction. Hein. Soyons précis, c'est-à-dire qu'entre l'an 1500 et aujourd'hui, on a dénombré 338 espèces éteintes. Il n'y a plus de représentants donc vivant. Ce qu'on s'aperçoit, donc c'est pas énorme, sur 40 000 espèces, un peu moins de 400, on s'aperçoit, et c'est intéressant, que depuis 1900, sur ces 338, ben, y en a 200 qui ont disparu, et que le phénomène s'accélère. Par contre...
C'est ça qui pose problème,
et
l'accélération.
Voilà. Et ce qui est préoccupant, et c'est ce que met un petit peu en avant le rapport du WWF et puis d'autres rapports, des publications scientifiques également, c'est qu'on observe un déclin de très nombreuses populations, et une disparition de population. Donc, chez ces animaux qui sont bien connus, ils n'ont pas encore disparu, si vous voulez, mais ils se rapprochent de plus en plus du bord du précipice.
Oui, il y a une alerte posée.
Voilà. Ouais. Et à partir, quand on arrive à un seuil où il y a peu d'effectifs, eh bien, ce qui va se passer, c'est naturellement l'extinction. Si on regarde au niveau des invertébrés, donc là, on note une très forte diminution de population, une diminution d'abondance. Vous avez peut-être entendu parler de ce fameux test du pare-brise. On en parlait tout à l'heure hors antenne, on parlait de nos souvenirs de vacances quand on partait. Il y a 20-15 ans, vous aviez le pare-brise qui était maculé. Aujourd'hui, vous pouvez faire les mêmes 500 km. Si vous avez un ou deux impacts, c'est le maximum. Donc, pour conclure, nous sommes sur la pente d'une extinction majeure du nombre d'espèces, si rien n'est fait et si nous ne changeons pas nos pratiques. Voilà un petit peu le bilan qu'on peut faire aujourd'hui. Alors, comme on a une partie pratique, comment réagir face à cette sixième extinction? Qu'est-ce que vous proposez, mon cher Didier?
Alors, comme souvent dans cette émission, je vais parler d'amour et de sa déclinaison. Et comme référence, j'aime citer l'évangile de Matthieu, au verset 35 à 39, et l'éthique de la permaculture. Alors je vais lire le passage du verset 35 à 39 de l'évangile de Matthieu. Un docteur de la loi posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. »
Alors, quel est le lien avec la permaculture?
Alors, c'est quoi la permaculture? La permaculture, c'est une méthode qui permet de créer des écosystèmes durables en s'appuyant sur des principes éthiques et sur des principes de conception que nous découvrirons peu à peu dans de futures émissions. L'éthique de la permaculture demande de respecter et prendre soin des humains, respecter et prendre soin de la nature et partager les fruits. Et c'est là le lien que je fais avec l'évangile qui est basé sur l'amour, donc une mise en pratique concrète qui est dans le respect et le prendre soin.
Très bien. Et pour ça, vous voulez, je crois, nous proposer d'écrire une charte.
Tout à fait, tout à fait. Parce que aller vers l'écologie intégrale, c'est un chemin de transition, c'est aussi un chemin de conversion qui nécessite de s'engager. Écrire une charte, c'est comme se donner un contrat moral. Combien de fois, le jour de l'an, on prend de bonnes résolutions qui sont oubliées dès le mois de février? En écrivant une charte et en la relisant régulièrement, notre résolution peut devenir réalité.
Et alors, qu'est-ce qu'on écrit dans cette charte?
Alors, tout simplement, moi je vais vous lire la charte que nous avons écrite avec mon épouse, qu'on a appelée l'éthique du verger de Saint-André, le lieu où nous habitons. Nous souhaitons respecter l'éthique de la permaculture en prenant soin de la nature et des humains et en partageant équitablement tous les fruits du verger de Saint-André. Ces fruits peuvent être tout ce qui peut s'épanouir, des fleurs, des arbres, des fruitiers, des plantes aromatiques, bienfaisantes, des fruits ou des légumes. Ces fruits peuvent être les connaissances acquises par nous et nos proches pour prendre soin de la nature et des humains. Nous souhaitons pour cela nous associer à la faune locale et aux humains qui nous sont proches. Nous souhaitons que des valeurs d'esthétique, de beauté et d'harmonie guident également nos choix.
Très bien, c'est très complet, ça aborde de nombreux domaines.
Alors, cette charte, il y a des choses très précises qui nous concernent, nous, mon épouse et moi. Donc chacun aura une charte différente.
Tout à fait.
Voilà, nous avons mis l'accent sur la transmission, et là, la participation à cette émission en est un exemple. La beauté et l'harmonie, la dimension artistique qui nous touche particulièrement. À partir de là, de cette charte, nous avons repérer des choses à changer, à améliorer et d'autres à conserver sur notre écosystème qui est le verger de Saint-André. Cela a permis d'identifier nos grands projets sur l'eau, sur les déchets, sur l'alimentation de nos ânes etc. Donc vraiment, cette charte, elle a été une première étape oui. importante.
C'est ça. C'est-à-dire que ce que vous nous proposez, c'est de s'asseoir un moment, de réfléchir, de méditer, d'écrire une charte, plutôt que de commencer directement, j'allais dire, sans réflexion, sur des petits points pratiques, pour aller plus loin.
Tout à fait. Et ce qui est important également, c'est la dimension d'éthique. C'est-à-dire le fait de dire qu'est-ce qui va nous guider, qu'est-ce qui va être le premier, ça va être le fait de prendre soin. Oui. Respecter et prendre soin. Ce qui rejoint l'évangile de l'amour. Parce que parfois, on se dit, mais comment on peut décliner l'amour dans l'écologie ?
Exactement, oui. On vit ça peut-être un petit peu de manière un petit peu extérieure, juste avec des gestes qui ne sont pas forcément en connexion et en relation avec nous-mêmes.
Tout à fait. Donc là, nous sommes vraiment partis de nous-mêmes et de la nature qui était autour de nous, de l'écosystème dans lequel nous vivons.
C'est très intéressant et je crois, chers auditeurs, qu'on voit bien qu'il est important de prendre du temps pour se poser, pour fonder les choses. Donc, c'est un appel à rédiger notre charte vers l'écologie intégrale. Chers auditeurs, à très bientôt. Au revoir à tous.
Au revoir.